Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La ministre des Transports réclame un audit des grandes gares. Elisabeth Borne attend que la SNCF lui propose des correctifs en plus des actions déjà engagées après les incidents de ces derniers mois. En Chine, Emmanuel Macron espère rééquilibrer un peu les échanges commerciaux. Il met Xi Jinping en garde contre le risque d'une nouvelle hégémonie. Julie-Marie Lecomte suit le déplacement du président. Dans ce journal également, un dossier sur notre rapport aux médias. 8 Français sur 10 sont sensibles à certaines théories du complot. Et en Suisse, la tentation est grande de ne plus payer la redevance servant à financer l'audiovisuel public. Après les pannes et les bugs, le moment des explications. Guillaume Pépi pour la SNCF et Patrick Jeantet pour SNCF Réseau ont été convoqués à la mi-journée au ministère des Transports. Une séance de travail pour tirer les leçons des ratés des derniers mois. Et à l'issue de ce rendez-vous, la ministre Elisabeth Borne a fait plusieurs annonces. Et d'abord celle d'un audit technique à la SNCF Raphaël Ebenstein.
L'annonce qui semble à première vue vraiment nouvelle et spectaculaire, c'est le lancement d'un audit complet de tous les systèmes électriques et informatiques des gares parisiennes, mais aussi des grandes gares en région, pour identifier les éventuels points de fragilité, anticiper les incidents potentiels, afin de pouvoir décider tout de suite des investissements nécessaires si l'audit révèle des failles. L'idée est évidemment d'éviter de revivre le cauchemar des bugs successifs autour de la gare Montparnasse. Par ailleurs, sur le plan de l'information aux voyageurs, là, 3 mesures ont été actées aujourd'hui. L'affichage en gare des travaux, la publication quotidienne des chiffres de régularité des trains par la SNCF et la création d'un indicateur de gravité des incidents. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a par ailleurs rappelé l'attachement du gouvernement à aider à la restructuration, la modernisation du réseau, alors que la SNCF va encore investir 5 milliards d'euros cette année.
La loi d'ouverture à la concurrence sera positive pour les usagers de la SNCF. C'est ce qu'estime Yves Crozet, professeur à l'Université de Lyon 2, membre du laboratoire Aménagement Économie Transport. D'après lui, la SNCF sera stimulée par ses concurrents et fera notamment des efforts pour limiter les dysfonctionnements internes.
L'ARAFER, l'autorité de régulation, nous a expliqué dans un rapport du mois de novembre que 55% du temps perdu par les trains relevait de dysfonctionnements internes à la SNCF, c'est-à-dire aussi bien l'absence d'un conducteur, que le problème de matériel ou qu'une panne qui aurait pu être évitée. Et donc, il ne s'agit pas d'atteindre 100% de régularité, ça c'est pratiquement impossible, sauf peut-être au Japon, mais de réduire les défauts actuels de moitié, ce qui serait déjà un grand progrès.
Parce qu'en termes de ponctualité, on est à un petit peu moins de 90% en ce qui concerne les TGV, les Transiliens, les Intercités. On peut se dire, finalement, c'est pas si mal. Est-ce que la France est mal placée à ce niveau-là par rapport aux voisins européens ?
Non, la France n'est pas mal placée. Si vous regardez par exemple la ponctualité en Suisse, en 2016 on était à 88,8%. Je regarde que les régions françaises, les TER en novembre 2017 étaient aussi à 88%. Par contre, il y avait une grosse différence entre l'Alsace, où on était à 93% de régularité, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on était seulement à 81%. Donc il y a des grandes différences régionales, et c'est comme à Paris, entre les différentes lignes du Transilien, il y a aussi des grandes différences dans la ponctualité.
Yves Crozet répondait à Céline Asselot. L'homme d'affaires Alexandre Djouri a été placé en garde à vue à Londres. Homme de l'ombre, proche de Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, Alexandre Djouri est au cœur de l'enquête sur le financement libyen supposé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Bonsoir Ludovic Piétonnier.
Oui, bonsoir à tous.
On a appris aujourd'hui son arrestation donc au Royaume-Uni, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen délivré par les juges français chargés de cette enquête.
Et cela faisait un an et demi que les juges espéraient qu'il réponde à leur convocation, mais Alexandre Djouri n'en avait que faire. Le journaliste Pierre Péan avait écrit sur lui dans La République des Mallettes, un livre paru en 2011 chez Fayard. Écoutez comment il le dépeint.
C'est quelqu'un qui a tué à toi... a commencé avec Michel Roussin, André Tarallo...
Plutôt la Chiraki.
Et après la Sarkozy-Land, c'est lui qui a facilité le rapprochement entre Dominique de Villepin et Sarkozy. Donc c'est un personnage totalement hors catégorie. Il était capable d'envoyer un avion à Villepin pour prendre le thé à Genève. Et donc la tête de beaucoup de gens éclate avec ce type de pratique.
Il a donc multiplié les services rendus. Et à force, poursuit encore le journaliste Pierre Péan, il les tenait tous, avaient peur de sa puissance. Et Emmanuel Macron s'en méfiait beaucoup, disait-on. L'histoire raconte qu'il y a un mois, pendant la visite officielle du président à Alger, Alexandre Djouri a réussi à se faire inviter à la Villa des Oliviers, à la résidence de France, dans le but de le rencontrer. Mais un homme recherché par Interpol sous le coup d'un mandat d'arrêt qui serre la main du président, cela aurait fait tâche. Ce soir-là, tout a été mis en œuvre pour qu'il ne se croise pas. Pierre Péan poursuit son récit.
Macron était fou de rage d'une telle opération. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas terminé et dont on cherche qui est responsable de ça, comment il a pu réussir à s'imposer, etc. Les Algériens ont demandé à Al-Jouri de s'éclipser au moins momentanément d'Algérie.
Détenteur de la double nationalité franco-algérienne, Jouri non grata désormais à Alger et convoqué par des juges à Paris, semblait donc avoir choisi ces derniers jours un transit londonien et c'est à l'aéroport d'Heathrow qu'il a été arrêté hier. Une date d'audience pour son extradition vers la France devrait être fixée demain par un tribunal londonien.
Ludovic Piétenu. Emmanuel Macron est arrivé la nuit dernière en Chine. Pour ce premier déplacement présidentiel en Asie, le chef de l'État a fait le choix de ne pas commencer par Pékin. Il s'est rendu d'abord dans le centre du pays, à Xi'an, ancienne capitale impériale. Et c'est là qu'il a prononcé son premier discours pour donner le ton de la nouvelle relation qu'il entend établir avec la Chine. On retrouve notre envoyé spécial en Chine, Julie-Marie Lecomte.
Et le maître mot de cette nouvelle relation avec le géant chinois, c'est équilibre.
Il y a parfois eu de la peur du côté européen à l'égard des intérêts chinois, de la puissance chinoise. Je veux donc qu'ensemble nous puissions construire les règles d'une relation équilibrée où chacun aura à gagner et où nous devons d'abord politiquement définir le cadre avec les secteurs sur lesquels nous voulons coopérer ensemble et ouvrir de part et d'autre les accès et les marchés et les parts de nos économies où nous ne souhaitons pas le faire.
C'est par un dialogue honnête, loyal, lisible que nous pourrons avancer, dit Emmanuel Macron. Alors le président français le dit tout net, la Chine qui mène depuis 2013 une politique d'expansion économique en dehors de ses frontières en construisant notamment des infrastructures gigantesques pour faciliter les échanges avec l'Afrique, l'Europe et le reste de l'Afrique, cette politique que Xi Jinping appelle les nouvelles routes de la soie, eh bien la Chine ne doit pas confondre suprématie et hégémonie.
Merci. En préparant ce voyage, beaucoup m'ont expliqué que le mot de réciprocité n'était pas traduisible en chinois. D'autres m'ont dit, c'est qu'en fait, le mot de réciprocité ne doit pas être traduit en chinois parce qu'il est un irritant, comme disent les diplomates. Il peut contrarier. Quand on construit une relation d'amitié, c'est une coopération équilibrée que l'on cherche.
Mais ce que défend Emmanuel Macron, c'est avant tout le multilatéralisme. Emmanuel Macron parle cash, mais il rappelle aussi combien le monde a besoin de Pékin dans de nombreux dossiers, dont la lutte contre le réchauffement climatique. Demain, il fera d'ailleurs à Xi Jinping des propositions pour lancer une nouvelle étape dans la bataille du climat.
Julie-Marie Lecomte, notre envoyée spéciale en Chine avec Fabien Gosset sur place à la technique. La semaine dernière, lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron annonçait une loi contre les fake news en période électorale. Aujourd'hui, un sondage met en évidence la croyance des Français à des contre-vérités. Et selon l'IFOP qui a réalisé cette étude pour le compte de la Fondation Jean Jaurès et de l'Observatoire Conspiracy Watch, le phénomène est majeur et préoccupant. Près de 8 Français sur 10 adhèrent à au moins une grande théorie du complot comme les Américains n'ont pas marché sur la Lune ou la CIA est impliquée dans la mort du président Kennedy. Et les plus jeunes sont les plus réceptifs à ces fausses informations, François-Pierre Noël.
Oui, près d'un quart des Français de moins de 35 ans croient à plus de 7 théories complotistes. Ces jeunes s'informent, en majorité sur Internet, là où les articles et les théories du complot sont publiés, ils sont donc soumis plus régulièrement à ces idées. Et bien que certaines d'entre elles semblent totalement farfelues, 15% des jeunes Français pensent par exemple qu'il est possible que la Terre ne soit pas ronde, mais plate. Un chiffre alarmant pour Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP.
Là où on peut être inquiet, c'est que tout au long de l'enquête, on le voit, l'exposition ou la sensibilité à cette thèse conspirationniste est d'autant plus forte qu'on se situe dans les générations les plus jeunes. On a parlé du rôle d'Internet et des réseaux sociaux dans la diffusion et la banalisation de ces opinions. Et donc, on peut quelque part, effectivement, oui, être interrogatif, voire inquiet sur l'avenir des choses, hein, si rien n'est fait. Ces thèses conspirationnistes et leur essor sont des symptômes de l'état de notre société.
Une société de plus en plus défiante. Et encore une fois, ce sont les moins de 35 ans qui le sont davantage. La moitié d'entre eux pensent, à un autre exemple, hein, que les élections en France ne sont pas transparentes et ne peuvent pas éviter certaines tricheries. Jérôme Fourquet souhaite que l'on apprenne dès l'école primaire à se défendre contre ces théories complotistes.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a de la diffusion, ce qu'on pourrait appeler des anticorps civiques ou citoyens, et là qui va passer par d'abord l'institution scolaire qui doit renforcer un certain nombre de réflexes de défense, d'esprit critique qui doivent être continués d'être diffusés dans les plus jeunes générations, car on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail et que la bataille est loin d'être gagnée pour une partie de ce public en tout cas.
Une bataille qui n'est pas encore terminée. Emmanuel Macron a déjà annoncé la préparation d'une loi pour combattre les fake news et plusieurs médias traditionnels travaillent sur plusieurs plusieurs formats, chroniques, pour combattre certaines idées conspirationnistes.
Et si l'on supprimait les redevances radio et télévision, la question sera posée aux citoyens helvétiques le 4 mars prochain. Cette proposition fait grand bruit en Suisse où le monde de la culture se mobilise depuis ce week-end. Selon les derniers sondages, une majorité de Suisses serait pour la suppression pure et simple de la redevance et la fin du financement public de l'audiovisuel, ce qui a poussé plusieurs milliers d'artistes à prendre la défense des médias publics suisses. Cécile de Kervesdouet.
Oui, jusque-là, ils étaient un peu seuls, ces employés de l'audiovisuel public suisse, face à la campagne massive financée par les libéraux de Suisse alémanique et par les conservateurs de l'UDC. Un peu seuls pour rappeler que la soixantaine de chaînes, dont plus de la moitié sont des radios et télévisions locales qui émettent en français, en allemand, en italien ou en romanche, sont finalement garantes de la diversité et du pluralisme de l'opinion, garantes aussi d'une certaine culture qui échappe à la pub, comme le raconte cette fiction de la RTS.
Et il va être 7h sur Rocky FM, bon réveil à tous. Les informations présentées par les saucissons Staubert. Les saucissons Staubert, ils sont moelleux et ils sont super. Nous sommes le mercredi 8 décembre.
Le problème, c'est que l'audiovisuel public n'attire plus les jeunes qui lui préfèrent des contenus sur Internet et issus des GAFA. Et ce constat n'est pas cantonné à la Suisse. Preuve que le débat est européen, explique l'historien Fabrice Dalmeida, professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
Il y a une fragilité du secteur audiovisuel dans toute l'Europe. Et cette fragilité de l'audiovisuel, elle touche particulièrement l'audiovisuel public. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à considérer que ces grandes institutions continuent d'avoir une fonction à un moment où on constate qu'il y a des acteurs privés qui remplissent aussi bien et parfois mieux cette mission. C'est là où il faut réfléchir à peut-être pas détruire l'intégralité des secteurs publics, mais réfléchir aux endroits où il y a des choses précieuses à conserver, ce qui peut concerner la culture, ce qui peut concerner l'information, ce qui peut concerner l'éducation. Et puis peut-être considérer que ce qui relève du divertissement, un peu moins directement utile et pertinente pour la démocratie, ça passe vers du privé. Ça suppose des réformes qui ne touchent pas seulement l'audiovisuel public. C'est ça qui est important. Et si on n'a pas envie que ça se transforme en une sidérurgie qui, en quelques années, est laminée et voire disparaître quelque chose qui a été quand même des champions européens, il faut y réfléchir, il faut s'atteler à cette tâche. Et l'exemple suisse, c'est ça le problème qu'on a devant les yeux. Ça n'a pas grand-chose. Ça peut s'effondrer.
Et de cela, les patrons des chaînes privées suisses en ont conscience. Certains d'entre eux soutiennent aujourd'hui l'existence d'un audiovisuel public, donc financé par la Confédération, contrairement aux éditeurs de presse qui souhaiteraient, eux, récupérer des parts de marché.
L'information est parue dans Le Parisien hier. L'un des rapporteurs chargés d'examiner les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon a démissionné de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Jean-Guy de Chalvron avait émis des réserves sur une partie des dépenses du candidat. Pour lui, sur les 10,7 millions dépensés par le candidat de la France insoumise, 1,5 million ne pouvait pas ouvrir droit à un remboursement par l'État. La Commission n'avait pas tenu compte de ses réserves. Aujourd'hui, Sophie Delpont, Jean-Luc Mélenchon se défend.
Mes comptes de campagne présidentielle sont approuvés, c'est le titre de ce post de Jean-Luc Mélenchon publié sur sa page Facebook. Le chef de file de la France insoumise y écrit que, je cite, « l'année reprend avec une série de petits bashings qui favorisent le trafic des pompes à clics ». Cette information du journal Le Parisien permettant, selon lui, de, je cite toujours, « jeter un peu de fiel et de doute sur moi », selon Jean-Luc Mélenchon. Aussitôt, la meute s'est mise en mouvement et on finirait par croire que la sincérité de mes comptes est en cause, que je suis concerné personnellement par le différend entre ce rapporteur et ses supérieurs dans cette commission, écrit Jean-Luc Mélenchon, qui reprend donc l'argument selon lequel la plupart des médias chercheraient en permanence à le décrédibiliser et à le salir pour faire du clic sur la toile et de l'audience. Dans ce texte, il répète 3 fois que ses comptes ont été validés par la commission, ce que personne ne remet en cause aujourd'hui. Et à propos des 1 500 000 euros évoqués par le rapporteur de cette commission, le député France Insoumise déclare « J'ignore absolument quelles dépenses ce rapporteur jugé non remboursable et dans ces conditions, je ne peux donner mon avis sur ses impressions. » Le leader de la France Insoumise conclut en lançant un appel à ses troupes. Il les encourage à éplucher toutes les parutions et commentaires publiés afin d'attaquer pour diffamation et en cas de publication de fausses nouvelles, ce qui le mettrait en cause dans cette affaire.
Merci Sophie Delpont. Atmosphère particulière hier à Hollywood. La cérémonie des Golden Globes a été marquée par la dénonciation des scandales qui ont frappé l'industrie du cinéma depuis les révélations sur Harvey Weinstein. Marquée aussi par le discours enflammé de l'animatrice de télévision et comédienne Oprah Winfrey. Avec nous, depuis Washington, Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Aurélie.
On savait qu'Oprah Winfrey était démocrate, mais hier elle a quasiment fait un discours de femme politique à tel point que certains trouvent qu'elle ferait une excellente candidate démocrate.
Oui, celle qu'on appelle ici juste par un prénom, Oprah, la reine du talk show, productrice, animatrice, actrice, patronne d'un groupe de communication qui compte 2 magazines et un site internet extrêmement puissant, l'une des plus grandes fortunes de l'histoire du divertissement, l'une des femmes les plus influentes au monde. Bref, Oprah a reçu hier un Golden Globe d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et en évoquant les scandales sexuels qui ont touché Hollywood depuis l'automne, elle a prononcé ce discours extrêmement fort, mais aussi très politique, vous allez l'entendre.
Je voudrais remercier l'association de la presse étrangère d'Hollywood parce que nous savons tous que la presse est attaquée en ce moment. Mais nous savons aussi que c'est cette volonté inextinguible de dire la vérité qui nous permet de ne pas être aveugles face à la corruption et à l'injustice. Je veux dire que je chéris la presse plus que jamais dans ces temps difficiles. Et je suis particulièrement fière de ces femmes et inspirée par ces femmes qui ont été assez fortes pour témoigner et partager leurs histoires personnelles.
Alors c'est vrai Aurélie qu'on a l'impression d'entendre une femme politique plus qu'une présentatrice de télévision, à tel point que dès hier soir sur les réseaux sociaux, les mots-clés Oprah 2020 ou Oprah présidente ont commencé à fleurir et ce matin, dans les matinales à la télévision, il y avait à peu près sur toutes les chaînes cette question, Oprah va-t-elle se présenter contre Donald Trump ?
Et vous la voyez vraiment se lancer en politique ?
Alors écoutez, on sait qu'elle a publiquement soutenu Obama en 2008, publiquement soutenu Hillary Clinton en 2016, donc Oprah Winfrey est démocrate. Au printemps dernier, face à des premières rumeurs d'engagement en politique, elle avait juré qu'elle n'irait pas, mais dans le même temps, en lançant des signaux contradictoires à ses 41 millions d'abonnés sur Twitter. On verra donc dans les prochaines semaines ou prochains mois si une candidature d'Oprah Winfrey se confirme ou pas. En tout cas, il n'y a pas grand monde côté démocrate pour l'instant, ce qui pourrait laisser un boulevard à l'animatrice si elle décide d'y aller.
Merci Grégory Phillips, en direct de Washington. En Allemagne, nouvelle tentative pour sortir de l'impasse politique. 3 mois et demi après les élections législatives, la CDU d'Angela Merkel et l'USPD de Martin Schulz entament des négociations préliminaires pour tenter de former un gouvernement. On est encore loin d'un accord, constate Cyril Sauvageau à Berlin.
Cette fois, Angela Merkel n'a plus droit à l'erreur. La chancelière en est bien consciente, elle qui se disait optimiste hier quant à l'issue de ces négociations de la dernière chance. Un peu de méthode Coué en guise de bonne résolution. Du côté du SPD aussi, l'heure est à l'apaisement. Martin Schulz se veut constructif. « Nous n'avons pas de ligne rouge », assure le chef des sociaux-démocrates. Mais malgré la bonne volonté affichée de part et d'autre, les discussions s'annoncent tendues et Angela Merkel va devoir se démener pour trouver dans les 2 prochaines semaines un compromis où chacun puisse sortir la tête haute. Martin Schulz, chahuté par sa base, veut des concessions sur la réforme de l'Europe et sur le social. Quant aux conservateurs, inquiets de la poussée de l'extrême droite, ils réclament plus de fermeté sur les questions migratoires. Si les négociations aboutissent, un congrès du SPD devra encore donner son feu vert fin janvier. En cas d'échec, l'option la plus probable est un retour aux urnes, très risqué pour Angela Merkel, et la garantie d'une Allemagne au point mort pendant au moins les 6 prochains mois.
Le Mexique, de plus en plus confronté à la violence. En 2017, le pays avait atteint un seuil record d'homicides. Il y en avait eu plus de 27 000. Et en ce premier week-end de 2018, des affrontements se sont succédés dans plusieurs points du pays, impliquant des cartels rivaux et des forces de sécurité. De vendredi à samedi, on dénombrait 50 morts. Et dimanche, 18 personnes ont perdu la vie lors de fusillades, l'une près d'Acapulco et l'autre à Cabo San Lucas, 2 stations balnéaires de la côte pacifique. Emmanuel Stills.
Los Cabos, Basse-Californie, Acapulco, si ces noms ont longtemps été synonymes de farniente au bord du Pacifique, il est devenu presque habituel aujourd'hui de les associer aux affrontements sanglants et à la narco-violence qui a gagné plusieurs régions du Mexique. Depuis quelques mois, la péninsule de Basse-Californie a vu sa tranquillité altérée par les règlements de compte entre cartels rivaux avec des corps abandonnés sur le pavé des stations balnéaires. Ce dimanche, à San José del Cabo, un endroit connu pour ses plages fréquentées notamment par les stars hollywoodiennes, 7 membres d'un commando armé ont perdu la vie lors d'une poursuite et d'une fusillade avec des militaires. Plus au sud, non loin d'Acapulco, la grande station balnéaire du Pacifique, des affrontements ont fait au moins 10 morts. À ce bilan noir s'ajoutent les 50 morts survenus en moins de 24 heures entre vendredi et samedi. L'année 2017 avait déjà battu tous les records de violence au Mexique et 2018 s'engage sur la même voie funeste. Mais cette année particulière, avec des élections présidentielles en juillet, l'insécurité figure au cœur de la campagne et les candidats s'affrontent sur la stratégie adoptée, alors que la politique officielle de guerre contre le crime organisé, qui dure depuis une décennie, n'a fait qu'accroître la violence.
Emmanuel Stills, correspondante de France Culture à Mexico. La météo, la Savoie est actuellement placée en vigilance rouge pour avalanche. C'est une situation exceptionnelle qui ne se produit qu'une fois tous les 30 ans, précise Météo France. Demain, le temps sera nuageux et souvent humide. Les minimales seront comprises entre 0 et 11 degrés. Il fera l'après-midi entre 7 et 16 degrés. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.